Bonjour Bertrand Haine.
Bonjour Pascal Plot, bonjour à tous.
Et de cette actualité qui concerne la Grèce et l'Europe, vous en parlez avec l'invité de Matin Premier.
Oui, c'est Marianne Denis qui est professeure à l'ULB. Bonjour.
Bonjour
Marianne Denis, on va faire le bilan de cette séquence, de ce qu'elle nous dit de l'Europe, du fonctionnement de l'Europe et de ses équilibres politiques. On le sait, la Grèce est financièrement sauvée, au moins à court terme, mais beaucoup de voix critiquent un accord qui ne donne aucune perspective au pays et qui a divisé l'Europe comme jamais. Selon vous, Marianne Denis, est-ce qu'on peut dire que l'Europe a avancé ou reculé ces derniers jours ?
Mais je dirais paradoxalement qu'elle a fait les deux en même temps. En un sens, elle a avancé parce qu'elle a pu ne pas tomber dans le piège du Grexit, de la fin, qui aurait pu marquer la fin de la zone euro, parce que l'euro qui n'est plus irréversible, c'est un manque de confiance qui s'installe. Mais ça s'est fait d'une manière qui incontestablement laissera des traces, et ces traces, eh bien, on risque d'en payer le coup pendant un certain temps.
Oui. Quand on voit qu'à un moment donné de la négociation, quand on entend plutôt que l'option du Grexit, un Grexit temporaire, a été mise sur la table par l'Allemagne, on se dit quand même qu'on a été loin dans le rapport de force face à la Grèce.
On était loin dans le rapport de force, mais je dirais surtout qu'on était loin dans la méfiance. Mmh. Et c'est pour moi cette crise, ce qui me frappe, c'est que c'est un manque total de confiance entre les États européens et entre les peuples européens. Et ça va à l'encontre complet de ce qui est même la philosophie même de la construction européenne. La construction européenne doit être basée sur la confiance mutuelle. Rien ne peut fonctionner sans la confiance. La reconnaissance mutuelle, c'est la confiance. La solidarité, c'est la confiance. La monnaie commune, c'est la confiance. Et ce qui me frappe pour le moment, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Oui. Il n'y a plus de confiance de part et d'autre. Et ce manque de confiance, en réalité, s'auto-alimente des deux côtés. Et voilà, moi j'ai l'impression que ce n'était même pas... En fait, je crois qu'il faut se rendre compte que pour l'Allemagne, ce n'était pas mettre cette idée sur le papier pour faire céder la Grèce. C'était une conviction profonde d'une partie de l'Allemagne, d'une partie de l'opinion publique, mais aussi du personnel politique en Allemagne, que la zone euro est mise en danger par la Grèce et que donc on ne pourra avancer que si on se sépare de cet élément qui est trop fragile. C'est un peu comme quand on dit on va couper un bras pour empêcher d'avoir la gangrène qui se développe. Oui. C'était pas une question de chantage. C'était vraiment, je crois,
une intime conviction,
d'une partie du personnel politique allemand.
Oui, et d'ailleurs, le Bundestag va devoir se prononcer sur ce plan d'aide. Et on sait que plusieurs députés du parti d'Angela Merkel ont déjà dit qu'ils allaient voter non, mais enfin, sa majorité est confortable. À un moment donné, de la négociation, s'est dit et c'est ce qui ressort aussi de la séquence, Marianne Denis, c'est que l'Europe de la rigueur, une certaine Europe du Nord, a imposé ses vues. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le sud de l'Europe, en France, en Grèce surtout, où c'est très mal pris. On parle de coup d'État, de néocolonialisme. Comment vous analysez ça ?
Mais c'est vrai qu'il y a un peu deux Europes, mais je trouve quand même que cette image des deux Europes qui revient au premier plan est quand même une vision un petit peu caricaturale, manichéiste des choses. Par ailleurs, voilà, c'est vrai que la Grèce est objectivement dans une situation où probablement que, même si c'est extrêmement difficile à comprendre ou à vivre pour les Grecs, une certaine mise sous tutelle était presque devenue inévitable. Et moi, je ferai une distinction entre la mise sous tutelle que je peux comprendre, en tout cas vu la situation, et peut-être l'autre aspect qui est de se dire qu'on continue absolument dans l'austérité. Là, de ce point de vue-là, je ne suis pas économiste, et donc dans tous ces débats entre économistes, les uns disant il faut appliquer d'autres recettes, les autres disant ces autres recettes ne pourront pas marcher pour la Grèce, là j'avoue que je ne sais pas très bien moi-même, parce que je n'ai pas les compétences pour le dire, mais voilà, je pense que ça dépasse quand même ce clivage-là, même si, incontestablement, ce clivage existe.
Oui. Est-ce qu'il y a eu la volonté, selon vous, aussi, est-ce que ça a joué dans la personnalité d'Alexis Tsipras, son parti, Syriza, pour une fois, première fois en Europe, un parti de gauche radicale arrivait au pouvoir? Est-ce qu'il y a eu, j'ai envie de dire, chez beaucoup d'Européens, l'envie de faire un exemple, de lui dire on ne laissera pas faire, on n'a pas envie que Podemos en Espagne ou que d'autres mouvements émergent émergents alternatifs en France, en Italie, trouvent dans Syriza une forme d'exemple. Et donc, on ne le laissera pas passer. Est-ce qu'il y a eu ça, des calculs politiques ?
Ce n'est pas totalement impossible, mais je pense surtout que, malgré tout aussi, le Syriza a fait des promesses dont on savait très bien qu'elle ne pouvait pas être tenue. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut interpréter en disant on ne peut pas permettre à certains partis politiques de faire croire à leur population qu'il va être possible de tout d'un coup faire des filles de tous les problèmes des pays et que le personnel politique doit l'honnêteté vis-à-vis de sa population. Et donc si on laisse croire qu'effectivement il suffit qu'un État organise un référendum d'une manière unilatérale pour dire, eh bien maintenant, le peuple grec s'est exprimé, nous allons aller dans ce sens-là. Si on commence dans ce sens-là, eh bien à ce moment-là, on peut organiser un référendum en Allemagne et l'Allemagne va dire, mais nous ne voulons plus aider la Grèce.
Sans doute que non. Ouais.
Et on va continuer. En fait, le gros problème, c'est que tous ces référendums nationaux et toutes ces... Ce repli national sur lui-même rend la solution encore plus difficile.
À ceux qui disent l'Europe financière s'est imposée à l'Europe démocratique qui, en Grèce, par le référendum, avait donné une légitimité, c'était de dire qu'il fallait changer, que cette solution n'était pas bonne pour la Grèce. Et on l'a pas écouté, cette démocratie-là. Donc, entre cette opposition entre le poids financier et la démocratie, vous dites quoi ?
C'est une question à la fois intéressante et difficile, parce que de toute façon, je dirais, l'Europe financière s'est imposée à l'Europe démocratique. Mais regardez, sans Europe financière, l'Europe démocratique ne peut pas exister non plus. Les banques sont fermées en Grèce et on voit que la fermeture des banques en Grèce est probablement la plus mauvaise chose, même au plan économique, qui puisse arriver à la Grèce. Si la Grèce avait encore un tout petit peu de chance de s'en sortir ou aller un peu moins mal il y a quelques semaines, depuis la fermeture des banques, les dégâts économiques sont considérables. Donc je crois qu'il faut aussi arrêter de diaboliser totalement l'Europe financière, parce que voilà, l'Europe financière, c'est des personnes qui ont prêté de l'argent. Et par ailleurs, je dirais, pour revenir aux grands financiers, je voudrais quand même signaler que c'est les créditeurs tellement détestés à certains égards qui ont été les moins virulents ce week-end. Et que finalement, si probablement on a échappé à un Grexit, c'est grâce à la position extrêmement ferme du président de la Banque Centrale Européenne. C'est lui qui est le seul qui a véritablement pu faire comprendre que une sortie de la Grèce de la zone euro, ce n'était pas seulement une catastrophe pour la Grèce, mais que ça allait déstabiliser la zone euro. Donc, à nouveau, je dirais, je peux très bien comprendre, mais ce sont des clivages un peu trop simples. Et puis, par ailleurs, je répète, c'est une volonté démocratique exprimée dans un seul pays, mais une démocratie ne peut pas prendre en otage 18 autres démocraties. Or, ce qu'il faudrait, et ça, c'est peut-être une utopie en Europe, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir finalement une responsabilité plus collective devant une opinion publique plus collective ? Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on reste devant des personnels politiques qui sont responsables devant des opinions publiques nationales, avec chacun son histoire, chacun son intérêt et chacun sa vision purement nationale des choses. Et ça ne fonctionne absolument pas à 28, et ça ne fonctionne absolument pas dans un monde globalisé.
On a manqué de leaders européens qui savaient peut-être se dresser au-delà de leur posture nationale. Merkel, Hollande, etc. n'ont pas su faire ce que Mitterrand, Kohl ont fait à une époque où c'est plus compliqué que ça, Marianne Donny.
Il est un fait qu'on n'a plus les grandes personnalités politiques de premier plan qu'on avait au lendemain de, enfin, pendant les 50 dernières années. Mais ça, c'est un constat qu'on fait aussi au niveau national. C'est vrai que, et c'est peut-être aussi une conséquence de l'évolution du monde et de l'évolution de la société. Je crois qu'un personnel politique qui vit sous la menace permanente des Twitter, des réactions dans les réseaux sociaux, où chacune de ces déclarations est analysée dans l'instant et avec aussi le caractère réducteur de ces réseaux sociaux de Twitter, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vision à long terme quand on est en permanence soumis à cette pression de court terme. Et ça, je crois que c'est un problème aussi de l'évolution. Un homme politique qui aurait une vision à long terme de l'Union européenne actuellement, probablement se mettrait en danger politiquement au plan national. Et ça, je crois qu'il n'y a personne qui ose prendre ce risque actuellement.
Allez, il nous reste une petite minute, Marie-Anne Denis. J'aimerais aussi avoir votre regard sur la position de la Belgique dans ce dossier qui est discuté, qui a été discuté hier au Parlement, où le Premier ministre a été soumis aux questions de l'opposition, qui reprochait à la Belgique d'avoir perdu son europhilie, d'être devenu dans le rang des je ne sais pas des europhobes, mais en tout cas des eurosceptiques ou des durs de chez durs dans la ligne européenne. Vous en pensez quoi ? La Belgique a changé ?
Je dirais deux choses par rapport à ça. D'abord, malheureusement, j'ai l'impression que la très grande europhilie de la Belgique, c'est quelque chose qui est en perte de vitesse, non pas depuis quelques semaines, mais déjà depuis un certain temps. Donc, c'est quelque chose qui se constate, mais depuis beaucoup plus longtemps. Et par ailleurs, moi, je dirais aussi que les différentes positions qu'on a pu voir, mais ça traduit aussi, d'une manière plus globale, dans le dernier week-end, un partage des rôles entre les ministres des Finances, qui systématiquement
très à cheval sur les finances,
ont joué le rôle du mauvais, et puis les premiers ministres, les chefs d'État, qui, eux, se montraient comme étant ceux qui étaient capables de prendre un peu de recul et un peu de hauteur. Et donc, je le verrais aussi comme ça.
Oui, et c'est un jeu de rôle qui a aussi existé dans d'autres pays européens, vous l'avez souligné. Merci, Marie-Anne Denis, d'avoir été notre invitée ce matin.